Bonsoir à tous. Alors on est donc dans Romains chapitre 5. Donc on avait, au printemps dernier, nous avions, donc vers le mois de juin, on avait étudié Romains chapitre 5, les versets 1 à 4. Ensuite on a fait une pause. À Noël, là j'ai profité, enfin pendant le mois de décembre, que j'ai eu plusieurs mardi de suite pour étudier Romains 5, en fait, verset 12 à la fin, parce que c'était un passage qui était donc un peu compliqué, donc qui nécessitait plusieurs messages, et je voulais pas que on soit coupé dans ce message, et donc j'avais laissé de côté les versets 5 à 10 de Romains chapitre 5, et donc aujourd'hui nous allons regarder en une seule fois les versets 5 à 10 donc du chapitre 5 de Romains. Et donc je lis pour vous Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà, nous allons d'abord, c'est un passage qui a une structure, comme souvent les passages de Paul, qui est importante, donc on va regarder le raisonnement, la structure qu'il y a dans ce passage. Donc on a d'abord le verset 5 qui pose le thème du passage. On y reviendra. Puis ensuite, le verset 6 commence par le mot « car ». Et donc, quand on utilise « car », ça veut dire qu'on veut donner une explication. Et donc, dans ce passage, il serait presque utilisé dans le sens de la preuve. Par exemple, on pourrait dire « il a plu cette nuit, la preuve, le sol est mouillé » ou bien « j'ai bien travaillé à l'école, la preuve, j'ai des bonnes notes ». Donc, il y a vraiment ce sens de preuve. Les versets 6, 7 et 8 forment un groupe, ils forment une unité, et ils sont là pour prouver ce qui est dit dans le verset 5. Ensuite, on a une autre expression caractéristique qui est utilisée au verset 9 et 10. C'est l'expression, donc, à plus forte raison. Elle revient deux fois, à plus forte raison. Donc, on la trouve au verset 9, puis au verset 10. Et donc, ce type d'expression, c'est utilisé dans le domaine du raisonnement logique, pour démontrer quelque chose sur la base d'une autre chose. Par exemple, on pourrait dire, il a couru le marathon de Paris. À plus forte raison, il peut courir 4 kilomètres. Ou il sait résoudre des équations mathématiques, à plus forte raison, il saura faire une addition. Donc, en d'autres termes, si le plus grand est vrai, le plus petit, il est aussi. Le plus grand, il est dit dans les versets 6, 7 et 8, et le plus petit, il est dit dans les versets 9 et 10. Hein ? Vous voyez, donc, il y a le verset 6 à 8 qui, quelque part, démontre les versets 9 et 10. Donc, on a donc une vérité qui est annoncée au verset 5. Cette vérité, elle est prouvée dans les versets 6 à 8. Et puis dans les versets 9 et 10, il y a une conclusion qui est tirée sur la base de cette vérité. Maintenant, on va regarder, on a vu la structure, on va regarder ce que Paul veut démontrer. Et je vais résumer l'argument de cette démonstration de façon très simplifiée. Et ensuite, on le regardera en détail. Le raisonnement du passage, c'est le suivant. Verset 5, Dieu nous aime. Versets 6 à 8, la preuve, Christ est mort, alors que nous étions les pires des pécheurs. Et versets 9 et 10, maintenant s'il a été jusqu'à faire mourir son fils, par amour pour nous, à plus forte raison, Dieu va-t-il nous sauver? Donc, hein, l'amour de Dieu, le verset 5, prouvé par la mort de son fils, les versets 6 et 8, et la conséquence, c'est notre salut. Donc on a donc devant nous un grand passage sur l'amour de Dieu et sur l'assurance du salut. Et vous voyez ici, Paul n'était certainement pas, probablement pas un poète comme David, c'est un homme de logique. Il utilise vraiment la logique pour ancrer un point important. Donc la logique, elle n'est pas exclusive de la foi. Maintenant, à qui s'adresse ce passage ? Je suis rentré directement dans le passage sans l'introduire, mais je rappelle que le passage, il commence au verset 1, au chapitre 5, verset 1, qui nous dit « Étant donc justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc le passage, il s'adresse à des gens qui sont justifiés par la foi. C'est un passage qui s'adresse exclusivement à des croyants. Et donc Dieu n'est pas, Paul n'est pas en train de prêcher le salut pour tous, mais uniquement le salut pour ceux qui croient. On en a également une autre preuve, puisque dans le verset 5, il a dit, il parle de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et donc ça, c'est une caractéristique uniquement des croyants. Regardons maintenant donc le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, il fait pas de doute, lorsqu'on regarde le contexte, qu'il ne s'agit pas de notre amour pour Dieu, mais qu'il s'agit de l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour, dit le texte, est répandu dans nos cœurs. Donc le mot répandu, c'est un mot qui parle de profusion et d'abondance, et il est répandu dans nos cœurs, c'est-à-dire le siège de nos émotions et de nos sentiments. Quelques chapitres plus loin, Paul a une expression parallèle, le chapitre 8, où il dit que par l'Esprit nous crions « Abba Père », l'Esprit rendant lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs à profusion et en abondance? Non seulement Dieu nous aime, mais il veut nous en assurer, et ce verset nous dit qu'il le fait par la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, en répandant lui-même son amour dans nos cœurs. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le fait que Dieu est un Dieu d'amour, évidemment, nous le savons bien, mais je voudrais regarder quelques versets pour nous faire méditer sur cet amour de Dieu envers son peuple, tout particulièrement envers son peuple. Écoutez par exemple Ésaïe 49, 12. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. J'ai noté ce verset dans Osée 2, 16 où Dieu parle à son peuple qui pourtant l'a trompé. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Écoutez encore ceci dans Jérémie 31. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Est-ce que nous ressentons cet amour dans nos cœurs avec intensité? Pas toujours. Et pas assez. Mais c'est pour ça qu'il y a les versets 6 et 10 qui constituent la suite de notre texte matin et qui sont là pour être utilisés par le Saint-Esprit, pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que Paul, manifestement, il a dû se dire que l'amour de Dieu n'est pas suffisamment répandu dans nos cœurs et qu'il fallait qu'il nous démontre avec sa logique cet amour, et c'est ce qu'il va faire dans les versets 6 à 10. Regardons donc ces versets 6 à 8 qui commencent par ce petit mot de démonstration, car. Versets 6 à 8. Car, lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est bien ce que font ces versets 6 à 8. Prouver l'amour de Dieu. Ainsi commence le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. Et dans ces trois versets, Dieu veut prouver son amour envers nous. Et comment le prouve-t-il? Par la mort de son Fils. Christ est mort pour nous. Quelqu'un pourrait dire en quoi est-ce que c'est extraordinaire? Il y a des hommes qui sont morts pour d'autres hommes. Ça s'est déjà vu, que quelqu'un meurt pour quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs le raisonnement que fait Paul. Et Paul envisage deux personnages. Un personnage qu'il appelle l'injuste et un personnage qui est un homme de bien. Alors, c'est intéressant, c'est quoi ces personnages? Qu'est-ce que c'est être juste? Être juste, c'est respecter la loi. Et être bon, c'est aller au-delà de ce que la loi demande. Si par exemple, la loi c'est de faire un mille, eh bien le juste, il va faire un mille. Mais l'homme de bien, lui, il va aller au-delà de la loi, il va faire 2000. Donc on a l'homme juste qui porte le sac du soldat romain pendant 1000, et puis l'homme bon ou l'homme de bien qui le porte pendant 2000. Mais Paul semble que ça vaille, il semble douter que ça vaille la peine de mourir pour un juste. À peine, dit-il, ça vaudrait le coup de mourir pour un juste. Et même, il concède que peut-être, éventuellement, on pourrait mourir pour un homme de bien. Mais qui mourrait pour quelqu'un qui n'est pas un homme de bien et qui n'est même pas un juste? Si on meurt à peine pour quelqu'un qui est juste ou quelqu'un qui est un homme de bien, alors on mourra certainement pas pour quelqu'un qui n'est ni bon ni juste. Et vous voyez où il veut en venir, parce que Christ, lui, l'a fait. Le passage donne trois qualificatifs concernant ceux pour lesquels Christ est mort. Il les appelle des pécheurs, des impies, des sans-force, même si on va plus loin, il les appelle des ennemis. Regardons un peu ces trois qualificatifs. Le pécheur, c'est quelqu'un qui transgresse la loi de Dieu. Le mot grec pour impie veut dire sans religion, sans adoration. Donc l'impie, c'est quelqu'un qui est sans Dieu, il vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et le troisième mot, sans force. Sur le plan spirituel, une personne qui est sans force est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver elle-même. Et donc, comme je le disais, le verset 10, il ajoute un autre mot qu'on peut inclure dans la liste, des ennemis de Dieu. Et c'est pour ces gens-là que Christ est mort. Donc c'est pas pour des hommes de bien ou pour des justes. Il n'est pas mort pour de braves gens qui le méritaient. Il s'est pas dit, ils ont fait des efforts, ils se sont comportés avec honnêteté, ils ont pratiqué le bien, ça mérite que je meure pour eux. Non, il est mort pour des pécheurs et pas pour des justes. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, 1 Timothée 1,15. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc 5, 32. L'argument de Paul est donc le suivant, on pourrait éventuellement mourir pour des gens honnêtes, peut-être qu'on mourrait pour quelqu'un d'exceptionnel, il le mériterait, mais qui mourrait pour un pécheur? Il ne le mérite pas, ça ne rime à rien, et c'est complètement insensé. Et pourtant Christ l'a fait, et la seule raison valable d'un tel acte, c'est son amour. Paul nous dit, en 1 Corinthiens 6,9, il nous dit ceci, « Vous étiez des débauchés, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des homosexuels, des voleurs, des cupides, des ivrognes. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est-à-dire, vous étiez tout ça, et pourtant Christ est mort pour vous. Chers frères et sœurs, pour que ce raisonnement de l'apôtre Paul ait quelque effet sur nous, pour nous convaincre de l'amour de Jésus, je crois qu'il faut vraiment que nous nous voyons tels que nous sommes. Pécheurs, impies, sans force et ennemis de Dieu. Peut-être que nous ne ressentons pas cet amour répandu dans nos cœurs parce que nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. Et nous ne voyons pas la réalité de ces gens pour lesquels Christ est mort. On a sans doute tous pratiquer un ou plusieurs des péchés qui étaient cités dans l'Épître aux Corinthiens. Et il faut également que nous regardions celui qui est mort. Ce n'était pas un martyr courageux, et ce n'était pas un héros valeureux, mais c'était Christ, qui était Dieu fait homme et qui était pur et sans tache. Et il a pris notre place sur la croix par amour pour nous. Pensons à Jésus-Christ, qui en montant sur la croix savait qu'il allait porter sur lui le péché de chacun d'entre nous. Pensons à Jésus qui monte sur la croix et qui nous dit « Tu es un débauché, tu es un menteur, tu es méchant, tu es querelleur, tu es médisant, tu es insoumis, tu es moqueur, tu as des mauvaises pensées, mais je t'aime d'un amour éternel. » et parce que je t'aime d'un amour éternel, je vais mourir sur la croix pour te laver de tous ces péchés. Et après, je viendrai te chercher, parce que j'ai préparé pour toi une place et tu seras avec moi pour toujours. Est-ce que lorsque nous raisonnons comme ça, nous voyons l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Passons du temps à méditer sur ces choses et prions le Seigneur qui répande réellement son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit. On va passer maintenant au verset 9 et 10. Peut-être effectivement qu'on se dit, quand on voit cet homme sur la croix, quand je le vois prier son père de pardonner ses propres bourreaux, je suis obligé de reconnaître son amour. Mais qu'est-ce qui me prouve que son amour va me sauver? Qu'est-ce qui me prouve que je n'irai pas en enfer? Et la réponse est donnée dans les versets 9 et 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés de la colère. On a médité sur ce thème dimanche dernier. On aime souvent parler du fait qu'on est sauvé, mais est-ce que on ajoute qu'on est sauvé de la colère? Je voudrais qu'on regarde quelques versets sur cette colère de Dieu, parce qu'il s'agit bien de la colère de Dieu. Par exemple, dans Romains 2, verset 5, dans le même chapitre, dans le même livre, pardon, Paul nous annonce qu'il y aura un grand jour de jugement qui va venir, où la colère de Dieu va se manifester contre l'injustice des hommes. Romains 2, 5, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » En Apocalypse 14, 10, en parlant de ceux qui adorent la bête, la parole dit ceci: « Il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, c'est-à-dire devant Christ. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Ou encore dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 7, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et Apocalypse 22, 19, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Le jour de la colère, le jour du jugement, vient, frères et sœurs, et nous ne voulons certainement pas subir cette colère. Comment pouvons-nous être assurés que nous ne serons pas sous cette colère? Les deux versets répondent à cette question, et dans chacun des cas, la réponse, c'est la mort de Christ. Rappelez-vous comment j'ai résumé l'argument de ces deux versets au début de ce message. Si Dieu a été jusqu'à faire mourir son Fils sur une croix par amour pour nous, à plus forte raison va-t-il nous sauver? Donc on a vu que les versets 9 et 10 utilisent un fait qui est énoncé dans les versets 6 à 8, et ce fait, c'est la mort de Christ. Donc le raisonnement des versets 9 et 10, c'est que ce fait très important étant établi, la mort de Christ, il est évident qu'un fait de moindre importance le sera aussi. Et ce fait de moindre importance, c'est notre salut. Donc Dieu a livré son Fils à la mort, par amour. Ça, c'est le fait le plus important. S'il a fait ça, il est évident qu'il va nous sauver. Notre salut, c'est le fait de moindre importance. Si Dieu est prêt à se faire homme et mourir en la personne de son Fils, alors il est certain qu'il ira jusqu'à nous sauver. Maintenant, regarde, où est-ce qu'on voit la mort de Christ dans les versets 9 et 10? Eh bien, on la voit au verset 9, dans cette expression, justifié par son sang, et au verset 10, réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. Et le sang de Christ fait bien sûr référence à sa mort, et le verset 10 parle explicitement de cette mort. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Pardon. Nous avons donc la mort de Christ qui est une preuve de l'amour de Dieu, dans les versets 6 à 8, et elle est maintenant ce qui nous sauve dans les versets 9 et 10. Justifié par son sang. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette expression, justifié par son sang. Parce que au début du passage, au verset 1, on a aussi trouvé ce mot justifié, mais là c'était justifié par la foi. Alors que veut dire le mot justifié ? Le mot justifié veut dire être déclaré juste. C'est le thème des chapitres 3 et 4 où nous voyons que Dieu impute sa justice aux croyants sans les œuvres. Romains 4, 5 dit qu'à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. La justice est donc imputée par Dieu à des impies, sur la base de leur foi et pas de leurs œuvres, elle vient de l'extérieur. Et cette justice dont nous avons besoin pour nous tenir en présence de Dieu, elle nous est donnée de l'extérieur. Elle ne nous est pas propre. On est donc justifié par la foi. Mais le verset 9 utilise donc cette expression un peu différente. Il dit que nous sommes justifiés par son sang. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on est justifié par la foi ? Ou est-ce qu'on est justifié par le sang ? Posons-nous cette question. Pourquoi Dieu nous sauve ? On peut se poser mentalement cette question, mais pourquoi Dieu nous sauve ? Chacun d'entre nous a sa réponse, et il y a peut-être plusieurs réponses. Mais il y a une première réponse qui est le grand thème de ce passage, Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Qu'est-ce qui pousse Dieu ? C'est quoi qui met Dieu en mouvement pour nous sauver ? Qu'est-ce qui pousse Dieu à se pencher vers cette créature pécheresse ? Comme dit Paul plus loin dans l'Épître, qu'est-ce qui pousse Dieu à tendre les mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant ? C'est son amour. Le moteur initial de Dieu dans son plan de salut des hommes, c'est l'amour. Et c'est bien le thème de notre passage. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, etc., nous l'avons vu au verset 8. Et l'amour de Dieu envers les pécheurs, c'est la grâce. Donc Dieu nous sauve par sa grâce. Mais maintenant, dans cet exercice, Dieu se heurte à une difficulté qui est pratiquement insurmontable. Parce que s'il veut sauver les hommes et les épargner de leur jugement, il doit les trouver justes, or ils ne sont pas justes. Et Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas passer l'éponge et faire comme si nous étions justes. Il est un juge parfait. Donc il choisit un substitut, un agneau sans défaut et sans tache, qui est Jésus. Il est parfaitement juste. Son sang est versé pour nous sur la croix. Son sang nous lave de tout péché. Et sa justice d'une vie parfaite en tant qu'homme, elle nous est imputée. Donc on est sauvé à cause de l'amour de Dieu, mais on est sauvé aussi à cause du sang de Christ. On est justifié par son sang. Et maintenant, quel est le rôle de la foi ? Pourquoi sommes-nous justifiés par la foi ? Pourquoi faut-il la foi ? Est-ce que la foi, c'est une œuvre que nous produisons et puis Dieu nous paye pour cette œuvre ? Non, la foi, c'est le canal par lequel nous recevons la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On peut imaginer la grâce comme un immense réservoir. Et pour avoir accès à l'eau qui est dans ce réservoir, il faut une canalisation. Et cette canalisation, c'est la foi. La foi consiste à recevoir avec confiance la bonne nouvelle de la vie par la mort de Jésus à notre place. Donc on est sauvé parce que Dieu nous aime, on est justifié par le sang de Christ et on est justifié par la foi en son sang. Il y a un passage qui résume tout ça, Romains 3, 25, qui dit que Jésus est la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui apaise la colère de Dieu pour tous ceux qui ont la foi en son sang. Regardons maintenant le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc ce verset évoque un autre effet du salut par Jésus-Christ. Il nous parle du fait qu'on était des ennemis de Dieu, mais maintenant, par la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, parce que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Donc nous avons brandi le poing contre Dieu, on lui a déclaré la guerre, mais lui nous a réconciliés. Et comment nous a-t-il réconciliés? Par la mort de son Fils. Est-ce que maintenant qu'il nous a réconciliés par la mort de son Fils, il va nous précipiter dans la géhenne, précipiter dans l'enfer des hommes qu'il a réconciliés avec lui-même par la mort de son propre Fils? Au contraire, il dit que nous serons sauvés ici, il nous dit sauvés par la vie de Christ. Encore une autre expression, sauvés par la vie de Christ. Tout à l'heure, il a parlé d'être sauvé de la colère, et maintenant il nous parle d'être sauvé par la vie. Il y a quelques versets que je voudrais qu'on regarde ensemble pour nous éclairer sur ce thème du salut par la vie de Christ. En Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En Colossiens 3:3, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ou en Jean 10:10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et en 2 Timothée 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc le salut, c'est pas seulement être sauvé de la colère, c'est ça bien sûr, mais c'est bien plus encore, c'est recevoir une vie nouvelle. Et cette vie, c'est la vie de Christ. La parole nous dit en Romains 6 que nous avons été ensevelis avec Christ dans sa mort, et que nous sommes ressuscités avec lui, et que nous marchons en nouveauté de vie. Il dit que nous sommes une même plante avec Christ, et donc nous vivons de la vie de Christ. Et le résultat est visible dans la vie du chrétien. La parole dit qu'il est transformé de gloire en gloire. Il vit une vie nouvelle, il est habité par l'Esprit de Christ qui agit en lui, qu'il transforme, qu'il sanctifie, et qui lui donne la victoire contre le péché. Et à la fin des temps, il sera ressuscité, il paraîtra avec Christ dans la gloire et vivra avec lui éternellement. Voilà, je pense, ce qui est, en quelques mots, en tout cas une évocation de ce qui est contenu dans cette expression « sauvé par la vie de Christ ». J'arrive à la fin de ce message. Il y a un homme de Dieu qui a fait un jour cette réflexion. C'est que les chrétiens, même s'ils sont sauvés, conservent un fond de suspicion envers Dieu. Ils restent en quelque sorte sur leur garde. Et ils se disent, est-ce que Dieu va réaliser réellement ses promesses? Est-ce qu'il va vraiment me sauver à la fin des temps? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et notre chair est toujours présente en nous et profondément hostile à Dieu. Et Satan entend toujours et murmure toujours à nos oreilles, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Je pense, Seigneur, que devant ces doutes, il y a une grande réponse qui nous est exposée dans ce passage, c'est la croix de Christ. Elle se dresse bien réelle, elle fait partie de l'histoire et personne ne la conteste. Et qu'est-ce que l'Éternel pouvait faire de plus pour nous montrer son amour que de se faire homme et de mourir à notre place sur une croix? Parce que c'était l'Éternel qui s'est fait homme. Et tout en sachant que nous sommes impies, pécheurs et ennemis de Dieu. Et maintenant qu'il a été jusqu'à faire l'impensable pour chacun d'entre nous, comment pouvons-nous croire qu'il va nous abandonner en chemin? Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et je voudrais terminer en citant deux strophes du Cantique Rédempteur Adorable qui résonnent tellement bien avec tout ce qui est dit dans ce passage. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur, à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Seigneur, nous écoutons cette exhortation de la personne qui a écrit ce cantique. Comprends-le, c'est pour toi. Nous nous sentons tellement indignes, Seigneur, tellement indignes, tellement impies, tellement sans force, tellement pécheurs, tellement ennemis. Nous avons tellement de mal à croire à ton amour. Et pourtant, Seigneur, tu as utilisé ton apôtre, toute sa logique, pour nous démontrer avec force combien tu nous aimes. Seigneur, puisses-tu briser ces honteuses barrières dans nos cœurs qui rejettent encore ton amour. Et Seigneur, puisses-tu répandre avec abondance, comme un torrent, avec profusion, ton amour dans nos cœurs. Et que nous soyons, Seigneur, transformés par cet amour, que nos vies soient transformées. Et que cette transformation se voie, Seigneur, à l'extérieur, et que tu en sois glorifié. Et que tout cela, Seigneur, se produise uniquement pour ta gloire. Je te prie au Saint-Nom de ton Fils. Amen.